France Musique. Europe 1720, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour la troisième étape de ce tour d'Europe des années 1720. Troisième étape que j'ai choisi d'intituler « La revanche de l'instrument ». Quelle revanche, dans quel combat peut-on se demander? Il faut bien sûr oublier le champ de bataille, voire le ring, en risquant un affreux anachronisme, mais repenser à quelques moments décisifs de l'histoire de la musique dite « savante ». On peut dire que, schématiquement, elle fut essentiellement vocale jusqu'à la Renaissance, même si on ne saurait négliger les recueils de danse de Claude Gervaise ou de Michael Pretorius au XVIe siècle. On n'oublie pas non plus la place qu'ont pu tenir un cornet ou une viole dans un madrigal ou un motet doublant ou remplaçant des chanteurs. Mais c'est à l'époque baroque qu'apparaissent, après l'opéra et l'oratorio, portés par la voix, le concerto, la suite et la sonate qui feront triompher l'instrument en groupe ou en soliste. Et les compositeurs que la postérité a retenus ont essentiellement œuvré dans ces années 1720 qui nous intéressent, à savoir Couperin, Rameau, Leclerc, Händel, Bach, Telemann, Scarlatti, Albinoni, Vivaldi.
Thank you.
Giuliano Carmignola au violon, les sonatories de la Gioiosa Marca interprétée d'Antonio Vivaldi, le concerto pour violon opus 8 numéro 5 intitulé La Tempesta di Mare. Et si l'opus 8 ne parle qu'aux spécialistes, les quatre premiers concertos pour violon, cordes et basses continues de ce recueil qui en compte 12 est connu du monde entier puisqu'il s'agit des célébrissimes quatre saisons. En plus de cette tempête et de ces quatre saisons, ce recueil affiche deux autres concertos à titre, Le plaisir et La chasse. Ce recueil fut publié par Michel Charles Lesen à Amsterdam en 1725. Alors nous avons un compositeur italien, un éditeur au nom manifestement français, Amsterdam, alors dans les Provinces Unies. Voilà notre Europe musicale qui se dessine. Michel Charles Lesen est en effet français, normand, huguenot, qui, comme des milliers de huguenots, a fui la France après la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685. Il avait épousé la fille d'Étienne Roger, un autre normand huguenot et imprimeur de musique célèbre, installé lui aussi à Amsterdam. Amsterdam était au début du XVIIIe siècle réputé, comme Londres, pour ses éditions musicales pirates, c'est-à-dire des copies bon marché de partitions originellement publiées en Italie, pays où était née l'imprimerie musicale. Ce phénomène de copie, à une époque où évidemment il n'existait pas le droit d'auteur, permit une circulation accélérée, fut-elle aux dépens des compositeurs, de la musique au-delà des frontières et vers un public plus large. Certains compositeurs réagirent à ce phénomène de piratage en gérant eux-mêmes l'édition de leur musique, comme Telemann, ou en proposant des éditions supervisées par leurs soins, comme Händel.
Thank you.
Enregistré en public au Wigmore Hall de Londres, c'était la deuxième suite pour clavecin en fa majeur de Handel suédois de Trevor Pinnock. Handel précise dans la préface et en français de ce recueil paru en 1720 « Je me suis trouvé dans l'obligation de publier les leçons ci-après en raison des copies incorrectes qui en ont été faites à l'étranger et cela à mon insu. J'en publierai d'autres à l'avenir, estimant qu'il est de mon devoir de servir par mon modeste talent une nation dont j'ai reçu si généreusement protection. » Ces 8 suites publiées en 1720 réunissent des œuvres composées antérieurement qui font une synthèse entre la sonate, elles font alterner ainsi des mouvements vifs et lents, et la suite, on le remarque par la présence de danses comme l'allemande, la courante et la gigue. C'est également par la circulation des partitions, légales ou non, que Bach, organiste et premier violon du duc de Saxe-Weimar-Wilhelm Ernst entre 1708 et 1717, que Bach découvrit les concertos de Vivaldi dont il fit une transcription pour orgue et pour clavecin. Il composera un peu plus tard, en 1721, les célèbres concertos brandebourgeois. Nous avons déjà écouté un concerto et une suite, deux créations de l'époque baroque, du violon et du clavecin, instruments non pas nés à cette époque mais avant, mais qui connaîtront un développement sans précédent à cette époque. Autrefois réservé à la danse, regardé avec condescendance car jugé, notamment en France, moins noble que la viole, la sonorité plus veloutée, plus voilée, moins brillante, le violon venu d'Italie finira par s'imposer en France au début du XVIIIe siècle et connaîtra ses premières sonates sous la plume de compositeurs tels Duval, d'Andrieux, Senaillet et Francoeur.
Thank you. Thank you.
Greta Maria Quintala au violon, Lauri Pulaka au violoncelle et Mitzi Meyerson au clavecin. C'était de François Francoeur, la sonate à violon seul numéro 7, extrait de ce recueil paru en 1720.
Europe 1720, Philippe Venturini, c'est l'été sur France Musique.
François Francoeur appartient à une famille de violonistes de l'Académie royale de musique, c'est-à-dire l'opéra, et fut également en poste à la cour, membre de l'orchestre fameux des 24 violons du roi et, en 1744, surintendant de la musique de la chambre à la place de François Colin de Blamont, compositeur déjà croisé avec ses fêtes grecques et romaines dans la deuxième émission intitulée « Baroque ou Rococo ». Tous les compositeurs d'Europe adoptent alors donc la sonate et le violon comme instrument soliste. On pense évidemment aux sonates et partitas pour violon seul de Jean-Sébastien Bach qui date de 1720, auquel François-Xavier Chimchak a consacré une série arabesque à laquelle je vous renvoie sur notre site francemusique.fr. Chez les Allemands, il y a aussi Johann Georg Pissendel, contemporain de Bach, qui connaîtra Bach et qui rencontrera également Vivaldi. À propos de violon et de compositeurs italiens, il faut citer Geminiani, qui s'installera à Londres, et Sommis, élève de Corelli, qui formera les Français Leclerc et Guillemin. On voit ainsi comment l'Europe musicale se constitue. Instrument soliste, roi de l'époque baroque, le clavecin a inspiré tous les grands compositeurs. Nous avons déjà entendu Couperin et Rameau dans l'émission Baroque ou Rococo, Handel il y a quelques minutes. Bach compose en ces années 1720 ses suites françaises, ses suites anglaises, le premier livre du clavier bien tempéré, manque le troisième génie du clavier de cette génération 1685, Domenico Scarlatti.
Thank you.
Pierre Antaille interprétait deux sonates de Domenico Scarlatti, la sonate Kirkpatrick 551, Allegro, et la 474, Andante et Cantabile. Domenico Scarlatti, ce Napolitain qui mourra à Madrid en 1757, ajoute des couleurs à la carte de cette Europe musicale, décidément fort contrastée. En 1720, il s'installe à Lisbonne, où il enseigne la musique et le clavecin, à Maria Barbara, la fille du roi Jean V du Portugal, qui deviendra reine d'Espagne. Et puisque vous écoutez France Musique, vous savez que ce compositeur a été fêté en 2018 et que ses 555 sonates pour clavecin, proposées par 30 artistes, sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Nous avons commencé cette émission consacrée à l'instrument par un concerto de Vivaldi. Je vous propose de la terminer par un autre concerto et un autre compositeur, moins connu en revanche, un Allemand, qui, comme Bach et Handel, s'inspirera du modèle italien. Il s'agit de leur contemporain, actif à Dresde, alors reconnu pour son orchestre de très haute qualité, Johann David Heinichen.
Thank you.
Musica Antiqua Köln, dirigé par Reinhard Goebel, c'était un concerto grosso pour trois flûtes à bec, cordes, deux hautbois, deux flûtes traversières en do majeur, Seibel 211 de Johann David Heinichen. Étonnant concerto en quatre mouvements, dont le deuxième, intitulé Pastorelle, donne l'impression d'être égaré dans une bergerie. Et ce concerto étonnant mélange des instruments anciens comme les flûtes à bec et modernes comme les flûtes traversières. C'est extrait d'un double CD qui avait fait sensation à l'époque de sa parution, intitulé Les concertos de Dresde, une des révélations de Reinhard Goebel, qui fit aussi beaucoup pour la connaissance de Telemann et toute cette musique allemande, ces compositeurs allemands contemporains, de Bach, Heinichen, compositeur protestant au service d'un prince catholique, Frédéric Auguste à Dresde. Et l'orchestre Dresde, je l'ai dit, Dresde qu'on appelait à l'époque la Venise du Nord, était réputé. Il y avait au violon Pissendel, que j'ai évoqué tout à l'heure, à la flûte et au hautbois Buffardin et aux luths Sylvius Léopold Weiss, qui laisse également de la très très belle musique pour son instrument, pour luth. Ainsi se termine ce troisième épisode de cette série Europe 1720, intitulée La revanche de l'instrument. La semaine prochaine, je vous proposerai de visiter le Théâtre du Monde. Il y avait aujourd'hui à la réalisation David Travailleur, à la technique Emmanuel Morse-Duncan, attaché de production Annick Aumier. Puisque vous aimez la musique baroque, je ne saurais trop vous conseiller de découvrir la huitième radio thématique de France Musique, sobrement baptisée La Baroque, et qui est accessible sur francemusique.fr. Vous écoutez France Musique et à 17h, il est l'heure de retrouver Marina Chiche et Mon cœur est un violon.
À réécouter sur francemusique.fr.